Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons encore là pour partager la parole de Dieu. Et nous commençons par lire dans 1 Timothée 12. 1 Timothée. Chapitre 1er, à partir du verset 12. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 12.
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Amen, amen. Voilà ce que notre frère Paul dit. Donc au chapitre 1er, il dit que il était quelqu'un de méchant, de violent, de mauvais, jusqu'à persécuter l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui. Et il dit que tout cela, c'était pour qu'il soit un exemple pour tout humain sur la terre. C'est-à-dire que à partir de Paul, en voyant que Dieu sauve Paul, chaque humain doit se dire, mais moi aussi, je peux être sauvé. Parce que Paul dit, le verset 15, le verset principal d'aujourd'hui, c'est une chose certaine et digne, c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour sauver les pécheurs. Et Paul dit, c'est moi le premier des pécheurs, parce que quand je regarde à tout ce que j'ai fait contre Jésus, contre son Église, contre les chrétiens, et qu'il m'ait sauvé moi, c'est qu'il peut sauver n'importe qui. Voilà notre message principal. Mais avant de revenir sur ce message principal, nous allons lire Matthieu 25, 31 à 46. Nous allons lire ça et puis nous allons revenir sur notre message principal. Matthieu 25, 31 à 46, c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs dont je suis le premier. Voilà notre verset de base. Nous lisons Matthieu 25, 31 à 46.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront ainsi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Voilà. Ce passage nous montre que un jugement est en train de venir. Jésus promet clairement dans ce passage qu'il y aura un jour où il jugera toutes les nations, même ceux qui sont morts. Ils reviendront à la vie et il y aura deux camps. Le camp de ceux qui ont fait les choses selon Dieu et le camp de ceux qui ont refusé de croire en Dieu ou de se soumettre à lui, qui ont refusé de prendre Dieu au sérieux. Il dit que les maudits, ça sera le camp le deuxième camp. Ces gens-là iront dans le feu éternel, mais qui n'avait pas été fait pour eux. Ça a été fait pour le diable, celui qui tente les gens, celui qui pousse les gens à ne pas croire en Dieu, à désobéir à Dieu. Ce feu-là a été fait pour lui, pour le contenir, pour l'empêcher d'agir sur le reste. Donc il devait être contenu comme c'est un être éternel. On ne peut pas le tuer. Donc, il doit être contenu, il doit être limité. Et c'est le feu qui va le contenir parce que c'est ainsi, face au mal, c'est le feu qui doit contenir. Mais ça n'a pas été préparé pour les humains, mais les humains qui choisissent le diable, qui décident de ne pas confier leur vie à Dieu, finiront là-bas. Le Seigneur jugera les gens selon leurs œuvres. Ce texte est clair. Ça ne sera pas selon les beaux discours. Ce n'est pas parce que tu fais de beaux discours sur Jésus, tu fais de beaux discours sur Dieu, que tu iras au ciel. C'est ta nature qui démontrera si tu es de Dieu ou pas. Et comment ta nature le démontrera? Parce que tu produis au jour le jour. C'est ça qui montre qui tu es. Ce n'est pas tes discours. Là, c'est clair. Jésus dit... Mais vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Il ne dira pas, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. C'est à cause de ça que vous allez au ciel. Et les autres, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. C'est à cause de ça que vous allez en enfer, dans le feu éternel. Ce sont les œuvres, les actes qui montrent qui nous sommes. Il y a un jugement qui arrive. Et donc, même si on veut faire semblant de ne pas le voir, au moins que... dans les circonstances d'aujourd'hui, avec le coronavirus, que tu sois honnête pour reconnaître qu'il y a un jugement qui va arriver. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse et dans Luc chapitre 21, le Seigneur Jésus a prévenu, a parlé de cela. Vous allez me dire, ah oui, mais ce n'est pas la première crise sanitaire, mais oui. Il a dit qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura qui vont se venir régulièrement. Mais c'est ce qui se passe. 2003, 2005, 2009, ça s'enchaîne. Et aujourd'hui, 2020, ça s'enchaîne. Il a dit qu'il y aura des pestes. Il y aura tout ça. Et quand vous voyez que toute l'humanité est touchée. Vous comprenez que là, ça ne ressort plus d'un accident. Ce n'est pas de l'ordre de l'accident. C'est de l'ordre du jugement. C'est un avant-goût. Et Jésus a prévenu, quand vous verrez ces choses-là, sachez que je suis à la porte. Je reviens. Mais même si ça ne sera pas la fin déjà, mais au moins ça annonce la fin. Il dit, vous êtes capable de voir le ciel, comprendre ce qui annonce la pluie, mais comprenez aussi ce qui annonce le jugement. Cette maladie, au moins que ça nous réveille, pour nous dire, le jugement se fera. Maintenant, si le jugement se fera, où irai-je? C'est ça la question logique, la question intelligente. Il y a un jugement qui arrive. Moi, j'irai où? Il ne suffit pas de dire de belles paroles sur Jésus ou sur la Bible. Comme nous venons de lire dans Matthieu 25, c'est ta nature qui t'amènera quelque part. Soit tu es de la nature de Dieu, soit tu es de la nature du diable. C'est ça qui t'amènera quelque part. Ce n'est pas les beaux discours. Maintenant, nous revenons sur notre passage de 1 Timothée 1, 12 à 16, où Paul dit que lui qui a été un blasphémateur, un homme violent qui a frappé les chrétiens, emprisonné les chrétiens, qui a soutenu le fait qu'on les mette à mort, ben, Dieu lui a pardonné. Alors, à travers les Écritures, Paul nous dit aujourd'hui, pourquoi, mon ami, demeurer dans ton péché alors que le salut est gratuit et simple? Pourquoi? Nous allons relire Paul dans 1 Timothée, comme on a lu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 1er, 12 à 16. Vraiment, c'est ça le texte important. Le jugement arrive. Que le péché ne te trompe pas pour te dire tu ne peux pas te débarrasser du péché, ou bien pour te faire croire que le péché donne de bons résultats. C'est faux. Le péché ne sauve pas du coronavirus. On voit des hommes forts, des basketteurs, des riches, des acteurs de cinéma, des politiciens bien placés, des ministres, des femmes de premiers ministres, attraper cela. Que le péché ne te trompe pas pour te dire, mais tu ne peux pas, c'est trop tard, c'est faux. Il est écrit dans la parole de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est ce que notre frère Paul veut nous dire dans 1 Timothée 1, 12 à 16, que nous allons lire.
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Amen. Pour que je servisse d'exemple, afin qu'en moi, Jésus-Christ fasse voir toute sa longanimité, c'est-à-dire que sa capacité à nous aider, à nous sauver dans la longueur, dans le temps, même si tu as fait le mal pendant des années, il est patient quand même pour te sauver, si tu le veux. Il y a un monsieur qui a été sauvé quelques minutes avant sa mort, à la croix. Il était à côté de Jésus. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus a la longanimité suffisante pour attendre, pour travailler jusqu'à te sauver. Et aujourd'hui, il te parle. Il te dit, ne reste pas dans le péché. Les temps sont durs. N'importe qui peut mourir. Que les exemples que nous voyons à la télé nous parlent pour écouter. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut se laisser sauver par la peur? Non, la peur ne te transformera pas. Comme on a lu dans Matthieu 25, c'est ta nature qui t'amènera au ciel ou pas. Ce n'est pas la peur. On peut toujours dire Jésus par peur. Ce n'est pas ça qui compte. Ça qui compte, c'est la prise de conscience de la déchéance du péché. La prise de conscience de la déchéance de l'homme. Se dire, mais c'est vrai finalement, l'homme c'est quoi? Le monsieur qui a été sauvé quelques minutes, il n'a pas été sauvé juste par sa déclaration. Mais dans sa déclaration, il confessait le fait que il a été bandit, il a été méchant, et ça n'a rien produit. Ça n'a produit que la mort. Finalement, il préfère le domaine de l'amour et de la bonté en Jésus qui va lui donner la vie éternelle. C'est ce qu'il a confessé. Donc, il a choisi la vie. On n'est pas en train de dire que par peur du virus, que tu te mettes en règle. Non. Tu dois comprendre par le virus, par la maladie, que la parole de Dieu est la vérité. Ce que la parole de Dieu a dit, ce que la parole de Dieu a prédit s'accomplit. Donc tout le reste est vrai. L'enfer existe. Le feu éternel existe. Tout le reste est vrai. Le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Regardons ce que les manipulations biologiques entraînent, ce que le comportement des humains produit. Tu dois reconnaître à l'évidence qu'il y a un problème. Si vraiment tu es censé, tu dois reconnaître. Ne sois pas dans l'entêtement. Reconnais qu'il y a un problème dans l'humanité. Il n'y a pas de sécurité sur cette terre. Il n'y a pas de sécurité. On ferme les frontières, ça passe toujours. Il n'y a pas de sécurité. Vous allez dire, ah, mais oui, mais en Chine, c'est en train de régresser. Mais oui, mais c'est. Jésus a dit que ça, c'est l'avant-goût. Tout ça, ça va être les avant-goûts. Pour nous parler, Dieu est tellement bon dans sa longanimité, il va nous parler même à travers ça pour te dire le sort de l'humanité, c'est la mort. C'est ce qui est écrit dans Romains 3, 23. Nous allons lire ça, Romains 3, 23. Et ensuite, on va lire le verset 24. On ne te demande pas d'aller au ciel par peur, mais d'aller au ciel par prise de conscience. À travers ce qui peut faire peur, tu prends conscience de l'acuité, de la précision de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu pour dire, c'est vrai que tout ça est vain. Regarde tous ces gens. Vous savez, ce qui est vain, c'est qu'on voit même que les pays pauvres ne sont pas touchés, mais c'est les pays riches qui sont touchés. Voilà, tu te dis, mais c'est vrai que tout ça est vain. Voilà qu'on aurait pu se croire en sécurité en Italie. Vous imaginez, il y a des Africains qui font tout, qui peuvent faire une année de parcours à pied jusqu'à arriver en Italie par bateau, prendre le risque même de couler. Mais on se rend compte que mais l'Italie n'est pas un vrai refuge. Puisque regardez ce qui se passe. Le vrai refuge, c'est auprès de Dieu. C'est le ciel. Tu te rends compte que l'argent n'est pas le vrai refuge. C'est cette prise de conscience que nous demandons. Nous ne voulons pas la foi par la peur, mais que la peur te fasse prendre conscience de la réalité, de la vérité biblique, et que tu décides de t'abandonner entre les mains de Jésus. Et cela est possible. N'écoute pas la puissance du péché qui te fait croire que tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas marcher Alors, qu'est-ce que tu espères? Tu espères que vite on trouve un vaccin, comme ça tout ça se calme. Allez, retour dans les boîtes de nuit. Oh, mon cher, il y aura autre chose encore. Et finalement, il y aura le feu éternel. Que ceci te parle. Oui, nous lisons Romains 3, 23.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils... Oui.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la présence divine, donc de la vie éternelle. Ce sont des gens qui sont voués à la destruction et à la mort. C'est ça le péché. Ça conduit à cela. Ce n'est pas parce que ça a un bon goût. Quand quelqu'un prend certaines drogues, au départ, ça a un bon goût dans son corps. Mais ça finit par quoi ? Par détruire beaucoup d'organes, par détruire le cerveau, par créer une dépendance qui fait de toi un esclave. On a vu des documentaires où il y a des gens qui ont besoin de 300 euros par jour de drogue. 300 euros par jour. Du coup, ils ne travaillent pas parce qu'ils doivent se piquer régulièrement. C'est devenu des loques humaines. C'est ce que le péché fait de nous. Tu diras, mais moi, je ne suis pas une loque. Oui, tu es une loque parce que tu ne dépends plus de ta volonté. C'est le péché qui t'entraîne. Ça t'entraîne même à nier l'évidence que ce que nous vivons aujourd'hui est un jugement. Ça te pousse à nier l'évidence de Dieu. C'est le péché. Tu es esclave, tu es une loque. Parce que quelque chose qui est tellement simple à voir. Vous savez bien, mais quand on lit tout ce qui concerne les étoiles, bien-aimé, tu deviens fou d'adoration de Dieu, de louange de Dieu. Vous savez qu'il y a une étoile qui s'appelle, et ce n'est pas la plus grande, mais comme son nom est beaucoup plus facile à retenir, Bethelgeuse, qui a un rayon de 700 millions de kilomètres. Est-ce que vous réfléchissez? 700 millions de kilomètres de rayon. Donc, ça veut dire notre soleil, ce n'est que 1, quelque chose. Mais là, c'est 700 millions. La Terre, vous voyez comment c'est grand? Mais ce n'est que 6400 kilomètres. 6400, notre Terre. Maintenant, cette étoile-là, c'est 700 millions. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment les scientifiques peuvent ne pas croire en Dieu? Est-ce que vous pouvez imaginer une boule qui a 700 millions de kilomètres? Vous imaginez comment c'est grand? Donc, quand on met la Terre à côté de cette boule-là, on ne voit plus la Terre. C'est un point! Tellement c'est grand! Mais c'est une boule qui existe. Donc, si on met cette étoile, la Bethelgeuse, on remplace le soleil par ça, donc ça va avaler et le soleil et la Terre. Donc, ça va avaler jusqu'à Mars. Ça va avaler tout ça. Tout ça, c'est que l'étoile elle-même. Rendez-vous compte de tout ça. C'est terrible. Combien c'est grand. Rien qu'un objet qui est aussi grand. Dieu est évident. C'est de la mauvaise foi ou de l'ignorance, parce que c'est ce que Paul dit, j'étais ignorant. Mais donc Dieu nous comprend dans notre ignorance, mais il surabonde dans son amour. Il permet que les prédicateurs parlent, qu'on explique les choses, pour que les gens sortent de l'ignorance, pour que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu. Vous vous imaginez qu'on vous mette une feuille d'arbre dans un microscope, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Une fleur. Vous allez voir comment c'est il y a encore des choses à l'intérieur. Il y a toute une vie à l'intérieur. Quand vous mettez une cellule dans le microscope, vous voyez qu'il y a toute une vie. Et il faut savoir que dans cette cellule-là, il y a encore d'autres choses à l'intérieur. Et il y a même un élément dans la cellule dans lequel cet élément-là se comporte comme une usine. Donc quand on regarde ça au microscope, il se comporte comme une usine. Il sort des matériaux, il reçoit d'autres, il transforme, il sort. Mais tu dis, mais tout ça, c'est encore plus petit que la cellule. Alors quand tu vois tout ça, comment tu peux nier l'évidence de Dieu? Dieu est évident. Ah, vous allez dire, ah oui, mais moi, s'il était... Il y a des gens qui disent, mais oui, mais pourquoi alors il y a des enfants qui meurent de cancer, il y a des enfants innocents qui meurent... Le pourquoi est simple, c'est le péché que notre ancêtre a commis. Il s'appelle Adam, il a commis le péché et le péché a entraîné les choses. Et quand le péché agit, il n'est pas rationnel parce que les gens pensent que le péché va être rationnel, va toucher seulement la personne qui a fait le problème, ne va pas toucher les autres. Non, non, le péché se répand. Comme le virus là, il est venu de Chine. Est-ce qu'il a demandé la permission pour venir en France? C'est irrationnel. Le mal se répand. Et ça peut toucher des gens qui n'en sont pas à l'origine. C'est ça le mal. Mais la solution est là. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus dit, pécheur, reviens. Pécheur, ô pécheur, viens. Tel que tu es. Paul nous le dit dans 1 Timothée, si moi j'ai été sauvé, vous tous vous pouvez être sauvés. Parce que qui peut être plus mauvais que moi? Qui est blasphémé? Vous savez, blasphémateur, c'est le péché le plus grave de la Bible. Donc quand tu blasphèmes, ça veut dire que tu as pris la place de Dieu. Quand tu blasphèmes, ça veut dire que tu as attaqué Dieu lui-même. C'est le péché le plus grave. Et Paul dit, moi j'étais un blasphémateur. J'ai attaqué Dieu lui-même. J'ai été un homme violent. J'ai fait enfermer des chrétiens en prison, injustement. J'en ai massacré d'autres par la violence. Et j'ai soutenu là, qu'on mette à mort d'autres encore. Il dit, mais moi, si Dieu m'a sauvé, alors il peut te sauver. Bien-aimé, arrête de croire que tu ne peux pas t'en sortir par rapport à la colère. Arrête de croire que tu ne peux pas t'en sortir par rapport à la pornographie. Arrête de croire que tu ne peux pas t'en sortir par rapport au plaisir de vêtements. Arrête de croire. Tu peux t'en sortir par rapport à tout ça parce que Jésus-Christ nous sauve. Il est venu sauver. C'est-à-dire que sauver, ça veut dire je te prends, je m'occupe de toi, je te soigne et je fais de toi quelqu'un de nouveau. C'est ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu comme un examinateur de brevet ou de baccalauréat pour voir tes connaissances, pour voir tes capacités. Non, il te dit, je sais que tu es pécheur. Je sais ce que tu es. Alors, ne te cache pas à moi. Avoue qui tu es et moi je te sauve. Maintenant, beaucoup de gens viennent à Jésus, ils ne veulent pas dire ce qu'ils sont. Ils veulent prouver qu'ils sont bons. Non, Paul dit, mais non, s'il m'a sauvé moi le mauvais, il peut sauver n'importe quel mauvais. N'essaye pas de te cacher. N'essaye pas de venir montrer une image qui n'est pas la réalité. Parce que tu penses que Dieu est un examinateur. Ce n'est pas un examinateur. Il vient sauver. Nous lisons ça dans Jean 3, 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Autant, bien aimé, il y aura le jugement. Mais autant, nous sommes dans un temps où il faut se sauver. Gratuitement, facilement. Le jugement sera très dur. Mais la grâce est aussi excellente. La grâce est aussi très facile. Donc, c'est la même chose. Le jugement sera dur. Mais aujourd'hui, nous sommes en temps de grâce. Il faut saisir et venir au Seigneur. Vous, les jeunes qui avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, saisissez le temps de grâce. Tu n'auras pas toujours une église où aller. Vous avez appris que les regroupements de plus de 100 personnes sont interdits. Donc, il n'y aura pas toujours un endroit où tu vas, tu écoutes la parole. Il y aura des conditions où tu n'auras plus ça. Amos 8, 11 nous prévient que dans les temps à venir, il y aura une famine de la parole de Dieu. Les gens chercheront la parole, ils ne trouveront pas. Ils auront un souvenir vague. Mais où est la vraie parole, ils ne trouveront pas. Donc, quand nous avons la grâce d'écouter la parole, saisissons. N'écoute pas la voix qui te dit que tu n'es pas sauvable. Tu aimes trop le péché. Tu aimes trop le monde. Mais si tu aimes trop le monde, tu aimes trop le péché, ben Jésus-Christ a avalé tout ça, a digéré tout ça à la croix et il peut te donner une nouvelle nature. Fais confiance en lui. Viens, ne continue pas dans le péché. Aujourd'hui, quand tu vas sortir de ce message, donne-toi à Jésus. Ne continue pas. Si tu es dans un état de péché, c'est le jour du salut. Nous lisons Jean 3, 16 à 18.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Pourquoi tu seras jugé? Parce que tu n'as pas confié ta vie au Fils unique de Dieu. C'est lui qui sauve. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Et à la croix, son Fils a pris tous nos péchés. Il a été condamné, il a été maltraité, injurié. On lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines. En cela, il était en train de payer pour nos péchés. Et il a été crucifié à la croix. Donc pourquoi toi tu veux porter quelque chose que Jésus a déjà porté pour toi à la croix? Et la voix du diable te dit, oh, toi t'aimes trop telle chose. Mais il faut répondre à cette voix. Il est écrit dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois en Jésus et je peux vivre autre chose avec Jésus. Jésus à la croix, il a crié dans Jean 19, 30, tout est accompli. Il peut changer radicalement notre vie. Radicalement. Il ne faut plus continuer dans le péché. Ne prends plus l'excuse comme quoi le péché te dépasse. C'est faux. L'apôtre Paul dit, je suis le plus grand des pécheurs. Et Jésus m'a sauvé pour vous donner à tous un exemple comme quoi il peut sauver n'importe qui. C'est pourquoi il m'a sauvé. Voilà, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas parce que lui, il était bon. Il n'était pas bon, il était mauvais, violent. Le plus grand péché, blasphémateur. Il dit, mais Jésus m'a sauvé pour montrer à tous les humains qu'il peut sauver n'importe qui. Alors qu'il peut sauver n'importe qui, pourquoi tu ne saisis pas ça? Et tu préfères écouter la voix qui t'amène à la mort, qui te dit tu ne peux pas t'en sortir, même si tu crois aujourd'hui, même si tu te fais baptiser, ne sais-tu pas que tu vas retomber toujours plus tard? Tu n'as pas vu tel pasteur, il est tombé. Tu n'as pas vu tel chrétien. Il parlait de Dieu, non? Maintenant, il est où? Il est devenu un DJ, non? Est-ce que toi, tu tiendras? Il faut dire, ce n'est plus moi qui vivra en moi, c'est Christ qui vivra en moi. C'est Jésus qui me tiendra. Moi, je ne tiendrai pas, c'est Jésus qui me tiendra. Amen. Un salut que Paul qualifie de grand. Comment des gens ratent un salut si grand? C'est-à-dire, c'est Jésus qui va te tenir. Bien-aimé, que les événements d'aujourd'hui nous amènent à une prise de conscience de l'échec humain pour venir à celui qui a remporté la bataille de la maladie, du péché qu'il a remporté à la croix et le troisième jour il est ressuscité. Il a même remporté la bataille de la mort. Le troisième jour il est ressuscité. C'est celui-là qui nous invite. Il dit, Matthieu 11, 28 à 30, qu'est-ce qu'il dit? Il nous invite. Il nous invite. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Il n'est pas venu condamner dans un premier temps, mais un jour il viendra condamner en tant que juge. Et le coronavirus nous prévient qu'un jour il viendra condamner, mais aujourd'hui il n'est pas venu condamner, aujourd'hui il est venu sauver. Pourquoi ne pas saisir ça? Pourquoi tenter Dieu? Pourquoi penser que tu as encore quelques années? Tu ne sais pas. Beaucoup sont morts aujourd'hui, ils ne savaient pas qu'ils avaient encore quelques années et que c'était fini pour eux, ils ne savaient pas. Et il y a même des gens qui sont morts alors qu'ils venaient de prier. Hein. J'ai lu hier, il y a un Suisse de 54 ans qui est mort parce qu'il avait assisté à un jeûne de prière avec des chrétiens. Il a été contaminé là-bas et il est mort aujourd'hui. Il ne savait pas. Et toi qui écoutes, qui es peut-être en Afrique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le coronavirus là-bas que ça te parle pour te dire que même toi, autre chose peut t'éliminer demain. C'est juste que nous comprenions le message de Dieu. C'est ça qui compte. Et Jésus dit, mais pourquoi? Pourquoi ne pas me prendre comme maître et sauveur que je m'occupe de vous? Pourquoi? Bien-aimé, beaucoup prétendent que ce que parfois nous prêchons, c'est exagéré, c'est dur. Rien n'est dur. Nous prêchons tout simplement qu'on doit vivre la vie chrétienne à 100%. Et cela est possible par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est ta nature qui t'amènera au ciel. C'est Jésus en toi à 100% qui t'amène au ciel. Ce n'est pas à moitié. Et aujourd'hui, si tu as l'impression que ta foi est chancelante, tu as l'impression que le péché commence à remonter dans ta vie alors que tu étais déjà baptisé. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu sympathises avec Jésus, mais tu n'arrives pas à décider encore de laisser à 100%. Mais écoutons ce que lui-même dit dans Matthieu 11, 28 à 30.
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Amen, amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à venir? On ne te dit pas, décharge-toi et viens. Non. Venez à moi, viens, tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis, tel que tu es, sinon ton sang versé pour moi. Voilà le chant. Tel que tu es, viens à Jésus. Tu veux quoi? Qui est la guerre pour que tu viennes? Pourquoi vivre dans l'incertitude, sans loin de Dieu? Tu veux quoi? Tu te rends compte qu'un corps jeune, sportif, n'est pas une assurance parce que Rudy Gobert, le basketteur, il a eu le virus. Tu t'en rends compte? Pourquoi ne pas te mettre en sécurité auprès de Dieu, sous ses ailes? Si je suis Jésus pendant toute l'éternité, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Sous ses ailes. C'est ce que le Seigneur te demande. N'écoute pas le mensonge comme quoi tu es un grand pécheur et que c'est compliqué que tu sois sauvé. Comme quoi les désirs des choses de la terre sont accrochés à toi. Comme quoi, certains aussi, on leur dit, mais tu as déjà signé le contrat avec le diable, avec ton sang. C'est impossible de faire marche arrière, c'est faux. le sang de Jésus est plus puissant que le sang qui a signé le contrat. Il peut effacer toute ancienne alliance, tout contrat. Il y en a, on leur dit, quand on devient sorcier, on ne peut plus faire marche arrière, c'est fini, c'est faux. On peut toujours faire marche arrière parce que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Il te demande de venir. Le diable te dira, mais oui, mais tu ne vois pas un tel. Lui, il était sorcier, il était venu, mais il y est retourné, non? Tu y retourneras. N'écoute pas tout ça. Écoute la voix de Jésus. La voix du Seigneur m'appelle. Jésus t'appelle. Viens. Viens. Aujourd'hui, c'est notre message. Viens. Arrête. Arrête de vivre tel que tu vis. Loin de Dieu. Arrête tout ça. De vivre. Tu te crois indépendant, mais tu es dépendant du diable. Tu t'en rends pas compte. Sois plutôt dépendant de Dieu. Arrête. Il n'y a pas de raison. Paul dit, si lui, il a été sauvé, tout le monde peut être sauvé. Parce que lui, il était un blasphémateur, le plus grand péché. Reviens au Seigneur. Confie tout à lui. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Les temps sont difficiles. Ce n'est pas par peur, ni par fuite, mais c'est par prise de conscience que tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, je me confie dans le Seigneur Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui va s'occuper de moi. Désormais, c'est lui qui prend en charge ma vie. Et tel que tu es, tu viens auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais toi, tu peux, parce qu'il est écrit, rien n'est impossible à toi. Moi, je viens me livrer à toi. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre à 100% avec toi. Je veux être comme Paul. Est-ce que vous vous rendez compte, Paul est passé de blasphémateur, homme violent, en prédicateur de Jésus et homme doux, le contraire. Il dit, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Son amour a surabondé là où mon mauvais caractère abondait. Son amour a dépassé. Son amour a surabondé là où mon amour pour les choses de la terre était fort. L'amour de Jésus a surabondé de sorte que je n'ai plus goût que dans ce qui est lié à Jésus. Bien-aimés, repentons-nous de nos péchés. Et revenons à Jésus à 100%. Seule une vie à 100% tiendra face aux événements qui s'apprêtent à s'abattre sur la terre. Seule une vie à 100%. Et ce n'est pas difficile cette vie à 100%. Pourquoi nous disons que ce n'est pas difficile? Parce que c'est Christ qui nous la donne cette vie. C'est lui qui vit en nous. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne va pas souffrir. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas difficile la vie à 100%. Mais on va souffrir parce que nous serons le contraire de ce que tout le monde est. Il y aura la souffrance, il y aura des prises de risques. Et je bénis le Seigneur bien-aimé aujourd'hui que nous nous réunissons malgré ces risques de contamination. On a un petit goût de ce que vivent, bien-aimés, de ce que vivent nos frères persécutés dans le monde entier. Vous savez que nos frères persécutés, ils ne savent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura des centres de la police? Donc, ils vont au culte avec un double sentiment, une double sensation. Ils se disent, bon, peut-être la police peut débarquer. Peut-être le nouveau frère qui est venu dimanche passé était en réalité un espion de l'État, un espion de la police. Et que ce dimanche-là, il va se ramener avec les policiers, les soldats, pour nous amener dans les conteneurs. Il y a des endroits où on met les chrétiens dans les conteneurs. Il y a des endroits où, en Corée du Nord, c'est les travaux forcés. Pendant des années et des années. En Chine, il y a des endroits où on les emprisonne. En Inde, il y a des endroits où on les brûle. Donc, ils ne savent pas, ce dimanche, est-ce que ce sera le jour de la descente? Ça sera le jour de notre massacre? Mais ils vont au culte. aujourd'hui, ben, nous aussi on est venus comme ça. Est-ce que c'est le jour de la contamination? Non, c'est intéressant de vivre. C'est ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Il a dit, est-ce qu'on peut lire ça? C'était pas prévu. 1 Pierre 5, 8 à 9. Il dit, mais ce sont ces souffrances-là que vivent tous vos frères et sœurs dans le monde entier. Et nous, on est là toujours, saucisson sec, machin. Non, il y a un temps aussi, on doit partager les souffrances. Donc, quand ces gens-là vont au culte, ils ne savent pas, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la descente? Ce n'est pas le jour où on va tuer mon papa pasteur? Est-ce que ce n'est pas le jour où on va prendre mon père, l'amener en prison? L'enfant va au culte avec cette peur-là. Mais il se dit, mais Jésus mérite la gloire. Amen. Nous lisons 1 Pierre 5 à 8 à 9.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Amen. Il dit que le diable nous impose des souffrances, des peurs. La plus grande des souffrances du diable qu'il nous impose, c'est la peur. C'est la plus grande souffrance, bien aimé. Tu peux être en costume, je ne sais pas quelle marque, de marque de François Fillon qui l'avait mis là, qui lui ont créé des problèmes. Tu peux avoir ça, mais quand tu as peur, tu transpires, tu tâches la chemise. Tu n'es plus mieux. Tu vois, comme lui, François Fillon, il va au procès, mais tu vas au procès en costume, je ne sais pas quelle marque, de 6000 euros. Mais tu te dis, mais si le juge me dit à perpétuité, c'est fini. Donc tu as un costume de 6 000 euros, mais tu n'es pas à l'aise. La peur, c'est la pire des souffrances pour un homme sur terre. Et le diable nous... L'apôtre dit, c'est ça que tous vos frères et sœurs dans le monde entier subissent. Alors quand ça nous arrive, on n'est pas les premiers. Bien-aimés, ne cherche pas à être super chrétien. Sois normal. La peur vient et tu pries que Dieu te l'enlève. Ne cherche pas à dire, moi, j'ai pas peur. Non, laisse tomber ces histoires-là. J'ai peur, mais tous mes frères et sœurs dans le monde entier, ils ont aussi peur. Il y en a qui ont peur parce que les parents sont musulmans. Ils ont interdit à l'enfant d'être chrétien, mais lui, il est devenu chrétien. Et donc, du coup, il va dans la peur. Même s'il va louer son Dieu, il y a une certaine peur. Mais il prie que Dieu l'enlève. Et quand Dieu enlève la peur, il est heureux. Que la police prenne mon père aujourd'hui. Que la police nous enferme tous aujourd'hui. Jésus est glorifié. Amen. C'est le jour du salut aujourd'hui, bien-aimés. Et je nous exhorte, bien-aimés, à prêcher à tous nos membres de famille, à prêcher à tous les gens que nous connaissons, à leur dire que c'est le temps du salut. Jésus-Christ sauve les plus grands des pécheurs. Vous n'êtes pas exclus, vous êtes invités tous au salut. C'est le travail que Dieu nous donne en ce temps de la fin. On peut encore évangéliser. N'entrons pas dans un esprit réflexif. Vous savez, en mathématiques, il y a une propriété qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire que c'est une flèche qui tourne sur toi-même, quoi. Donc, on se recroqueville et on attend que Dieu nous enlève pour nous amener au ciel. Non, nous devons répandre l'évangile parce que les gens en ont besoin. Peut-être que le coronavirus leur a ouvert les yeux. C'est l'aide de Dieu pour leur salut. C'est le moment. C'est le moment d'apporter l'évangile. C'est le moment de parler de Dieu. C'est le moment... Non pas que les gens soient sauvés par peur, comme on l'a dit, mais parce qu'ils ont pris conscience que le péché entraîne la mort. Ils ont pris conscience qu'il n'y a pas de salut sur la terre. Le salut ne se trouve qu'en Dieu. Voilà l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui. Si tu es là au milieu de nous, tu veux te donner. Tu as compris que tout ça, tout ce que la terre propose, c'est de la déchéance tôt ou tard. Où est Michael Jackson? Où est Mohamed Ali? Où sont tous ces gens-là? Ils ont connu la déchéance physique, financière. Michael Jackson est mort endetté. Quelqu'un qui était milliardaire, il est mort endetté. Il est mort dans une maison de location. Mohamed Ali. Il y a même des grands, des gens comme Joe Louis qui est mort portier d'un cinéma alors qu'il était champion du monde de boxe. Portier d'un cinéma. Tout ça, c'est rien. Ta beauté, c'est rien. L'argent, c'est rien, tout ça. Beaucoup qui sont morts là aujourd'hui ont laissé des belles maisons. Ont laissé de vraies sécurités. Matériellement parlant. La jeunesse, c'est rien. Ça passe très, très vite. Très, très vite. 2 Corinthiens 6, 1 à 2 nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà, nous allons faire la prière. Je ne veux inviter personne à venir devant, mais là où tu es, c'est si tu es convaincu que c'est ton jour, tu vas faire la prière comme moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens me livrer à toi. Je suis fatigué de vivre selon ma volonté. Je suis fatigué de vivre loin de toi. Je ne veux pas vivre comme un homme sans Dieu, sans protecteur, tout seul face aux réalités de ce monde, aux menaces de ce monde. Je ne veux pas vivre de mes raisonnements et de mes peurs, mais je me confie en toi. Prends ma vie à partir d'aujourd'hui. Entre dans ma vie à partir d'aujourd'hui et prends le contrôle de ma vie à 100% Jésus. Voilà ma prière. Alléluia. Merci Seigneur d'agir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.